Chapitre 111, la formation du caractère. La force de caractère comprend deux choses, une volonté ferme et le pouvoir de se dominer. Beaucoup de jeunes se trompent en prenant pour de la force de caractère leur passion incontrôlée. La vérité, c'est que celui qui est dominé par ses passions est un homme faible. La grandeur réelle et la noblesse d'un homme sont mesurées par la force des sentiments qu'il subjugue, et non par la force des sentiments qui le subjuguent. L'homme le plus fort est celui qui, bien que violemment tenté, maîtrise ses passions et pardonne à ses ennemis. De tels hommes sont de véritables héros. Beaucoup de chrétiens ont de si maigres ambitions qu'ils resteront toujours spirituellement des nains, alors que, s'ils essayaient de développer les facultés que le Seigneur leur a données, ils acquéraient un caractère noble, et exerceraient une influence qui gagnerait des âmes au Christ. La science est une force. Mais les capacités intellectuelles, sans la bonté, sont des forces pour le mal. Dieu nous a dotés de facultés intellectuelles et morales, mais nous sommes en grande partie l'architecte de notre propre caractère. Chaque jour l'édifice s'élève. Mais la parole de Dieu nous met en garde sur la manière dont nous bâtissons, elle nous dit de veiller à ce que la construction soit fondée sur le rocher des siècles. Le temps vient où notre œuvre se révélera telle qu'elle est. C'est maintenant que nous devons cultiver les facultés que le Seigneur nous a données, pour que nous puissions former des caractères qui soient utiles ici-bas et dans l'au-delà. Chaque acte de notre vie, même s'il est sans grande importance, exerce son influence sur la formation de notre caractère. Un bon caractère est plus précieux que toutes les richesses du monde. Travailler à sa formation est l'œuvre la plus noble dans laquelle les hommes puissent s'engager. Les caractères formés au hasard des circonstances sont variables et discordants. Ceux qui les possèdent n'ont pas de but élevé dans la vie. Ils n'ont pas une influence ennoblissante sur le caractère des autres. Ils sont sans but et sans puissance. Le peu de vie qui nous est accordé doit être sagement mis à profit. Dieu aimerait voir son Église vivante, consacrée, missionnaire. Mais dans l'ensemble, nous sommes loin de cet idéal. Dieu fait appel aux âmes fortes, courageuses, actives, qui suivent le divin modèle et exercent une bonne influence. Le Seigneur nous a confié les vérités les plus importantes et les plus solennelles. Il faut que nous en montrions la portée dans nos vies et nos caractères. Aux Jeux olympiques auxquels l'apôtre Paul fait allusion, ceux qui étaient enrôlés dans la course devaient se préparer minutieusement. Pendant des mois, ils étaient entraînés par différents maîtres à des exercices physiques destinés à fortifier leur corps. Les coureurs étaient tenus de s'abstenir de certains aliments afin de se trouver dans les meilleures conditions possibles. Leurs vêtements devaient être assez amples pour ne gêner aucun organe ni aucun muscle. Si ceux qui étaient engagés dans la course pour obtenir des honneurs terrestres se soumettaient à une discipline si sévère, combien plus il est nécessaire pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur de se dominer eux-mêmes et de se préparer, s'ils veulent réussir. Leur préparation doit être plus complète. Leur ferveur et leur abnégation, plus grande que celle des coureurs du stade olympique. Il faut que l'esprit, aussi bien que les muscles, soit entraîné par des exercices assidus et persévérants. Le chemin du succès n'est pas un chemin facile sur lequel on circule dans des voitures de luxe. C'est un chemin rude, semé d'obstacles qui ne peuvent être franchis que par un effort soutenu. Comme nous connaissons peu la portée de nos actes sur notre destinée et sur celle des autres, beaucoup se figurent que ce qu'ils font n'a pas grande importance. Cela ne leur fera pas de mal, pensent-ils, d'assister à un concert, ou de participer à des plaisirs mondains. C'est ainsi que Satan les conduit et contrôle leurs désirs, et ils ne se doutent pas que les conséquences peuvent en être très importantes. Ce peut être l'anneau de la chaîne qui retient une âme dans les pièges de Satan et détermine sa perte éternelle. Tout acte, même petit, a sa place dans le grand drame de la vie. N'oublions pas qu'une simple satisfaction de l'appétit introduisit le péché dans le monde, avec ses terribles conséquences. Les mariages impies des fils de Dieu avec les filles des hommes amenèrent l'apostasie qui provoqua la destruction du monde par le déluge. La plus légère indulgence amène de grandes révolutions. C'est le cas aujourd'hui. Il en est très peu qui s'examinent sérieusement. Comme les enfants d'Israël, ils ne prennent pas garde aux avertissements qu'ils reçoivent, mais suivent leurs propres inclinations. Ils fréquentent des cercles mondains pour se faire remarquer, et ouvrent ainsi le chemin pour que d'autres s'y engagent à leur tour. Ce qui est arrivé une fois, ils le feront encore, eux et beaucoup d'autres. Chaque pas fait dans cette voie produit une impression durable, non seulement sur leur propre conscience et sur leurs habitudes, mais sur celles des autres. Ces considérations donnent une importance redoutable à la vie humaine. Nous serons individuellement, pour le temps et l'éternité, ce que nos habitudes nous auront fait. La vie de ceux qui en acquièrent de bonnes et sont fidèles dans l'accomplissement de chaque devoir, sera une lumière resplendissante, projetant ses rayons sur le sentier des autres. Mais si nous contractons des habitudes d'indolence et de négligence, un nuage plus noir que les ténèbres de minuit obscurcira notre vie, et nous privera pour toujours de la vie future. Toute la Bible est une révélation de la gloire de Dieu en Christ. Reçue, crue et obéie, elle est le grand instrument de la transformation du caractère. Et c'est l'unique et sûr moyen pour cultiver son intelligence. La religion du Christ n'avilit jamais celui qui la reçoit. Elle ne le rend jamais grossier, rude, discourtois, vaniteux, passionné ou cruel. Au contraire, elle raffine ses goûts, sanctifie son jugement, purifie et ennoblit ses pensées, les amenant captives à la volonté du Christ. L'idéal de Dieu pour ses enfants est plus haut que la pensée humaine la plus élevée. Sa sainte loi est l'expression de son caractère. L'idéal du caractère chrétien est de ressembler à celui du Christ. Nous avons devant nous un sentier qui monte sans cesse, un objectif à atteindre, un idéal à réaliser qui comprend tout ce qui est bon, pur, noble et élevé. Il nous faut faire des progrès constants et tendre à la perfection du caractère.